Vous écoutez RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Ça a été un vrai choc de découvrir que d'abord il y avait une première rafle en France, pas celle de 42 qu'on connaît tous, mais en 1940, que de femmes, des juives et des allemandes, des ariennes, ensemble.
RTL.
On appelle ça comment ? La rafle des femmes indésirables. Qu'est-ce que c'est qu'une femme indésirable ? Alors là, en effet, c'est toutes celles qui n'ont pas d'enfants.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Des milliers de femmes raflées par la police française le 15 mai 1940, des femmes allemandes et donc supposées ennemies. Et pourtant, parmi elles, nombreuses sont celles qui ont fui le nazisme et les persécutions. On vous raconte leur histoire dans la curiosité avec la philosophe et auteure Diane Ducret. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue. On est très heureux de vous retrouver dans la curiosité. Vous étiez venue nous parler des femmes de dictateurs il y a quelques mois. Et c'est un très grand souvenir de cette émission. Donc on a eu envie de vous rappeler quand on a vu que vous aviez travaillé sur l'histoire de ces indésirables. Pourquoi on les appelle comme ça, ces femmes ?
Ces femmes indésirables, il y a eu aussi des hommes indésirables, ce sont les réfugiés qui avaient fui le nazisme. Ils sont originaires des pays du Reich, des pays associés à l'Allemagne. Ce sont des Polonais, des Belges, des Autrichiens. Ils sont juifs parfois, ariens dans d'autres cas. Et ce sont tous ces réfugiés qui sont arrivés par millions en France, notamment à Paris, que l'on a logés dans des hôtels de fortune, dans des gymnases, et puis qui, au début de la guerre, d'un coup, commencent à devenir extrêmement dangereux. L'opinion publique commence à s'inquiéter, de se dire qu'ils pourraient être une cinquième colonne, être des attaquants cachés qui pourraient se déclencher et nous tuer.
Et donc des espions. On a beaucoup parlé dans la campagne électorale de la rafle du Vel'd'Hiv, celle de juillet 1942, menée sous le régime de Vichy. On va découvrir une autre page de notre histoire, beaucoup moins connue, quasi inconnue même on peut le dire, qui commence elle aussi au Vélodrome d'hiver à Paris. On est donc le 15 mai 40. On va poser le décor. Qui gouverne en France et quelle est la situation militaire ?
C'est encore la République, c'est un gouvernement qui va durer à peine 3 mois, une coalition de gauche, de Reynaud. Et,
Paul Reynaud, c'est ça ?
Absolument,
sa tête,
ouais. Et bien, c'est le début, après un an de drôle de guerre où il ne se passe pas grand-chose, soudain, d'un coup, en ce printemps 1940, on ne rit plus du tout. Hitler a déclenché l'offensive et il avance avec des bottes de 7 lieues. La Belgique vient d'être aplatie en à peine 2 jours, les lignes françaises également, et le 12 mai 1940, eh bien, le gouverneur général de Paris placarde sur tous les murs de la capitale ainsi que dans les métros un avis au rassemblement, on appelle ça comme ça à l'époque, on n'emploie pas le mot rafle, un rassemblement pour toutes les femmes étrangères, les hommes aussi, mais ailleurs, dans un autre centre, les femmes étrangères liées au Reich, même les apatrides, les femmes mariées à des Allemands, les femmes nées en Alsace-Lorraine, mais à l'époque de l'Allemagne, entre 17 et 65 ans, qu'elles soient mariées ou célibataires, mais qu'elles soient toutes sans enfants, doivent impérativement, le 15 mai 40, se rendre au Vélodrome d'hiver avec des vivres, payer par elles-mêmes leurs moyens de transport, et si elles ne viennent pas, on ira les chercher par la force. On appelle ça la rafle des femmes indésirables, une rafle en plein Paris, avant même le régime de Vichy.
Ces indésirables, Diane Ducret, vous leur consacrez un roman publié chez Flammarion, un roman qui nous plonge d'abord dans ce Vélodrome d'hiver. Où est-il situé et à quoi il ressemble ?
Il est dans le 15e arrondissement de Paris. Évidemment, aujourd'hui, on ne peut plus le voir, on se doute pourquoi. C'est le fleuron de l'architecture Eiffel, quelque part. Il y a beaucoup de rivets, c'est une structure métallique immense, avec un toit de verre, une immense verrière. Et à l'intérieur, c'est une grande piste cyclable. On vient y voir les étoiles, la piste aux étoiles, c'est les étoiles du sport cycliste. On vient y voir des spectacles, la Môme Piaf s'y produit, des grands chanteurs. C'est
un lieu de joie, un lieu de joie, sport.
Un lieu de joie, ouais. De sport, de rassemblement populaire, en effet. Aller au Vel'd'Hiv voir un spectacle, c'est quelque chose que l'on fait en famille et c'est un événement joyeux et populaire.
Ouais. Et on transforme ce lieu de joie en lieu d'internement, en lieu de misère et d'horreur. Que vont découvrir ces milliers de femmes qui arrivent ce 15 mai 40 au Vel'd'Hiv ?
Rien. Rien, parce que rien n'a été préparé pour elles, évidemment. Elles découvrent donc des pistes cyclables avec des loges. Elles entrent d'abord certaines arrivent avec des paniers à provisions, d'autres en chemise de, en vêtements de nuit parce qu'on va les chercher chez elles, par la force, par la police. Et elles arrivent et il se met à pleuvoir à partir de 17h parce qu'il faut imaginer 5000 femmes environ, entre 3000 et 5000, on n'a pas les chiffres exacts, qui se pressent pour rentrer. Il y a des contrôles. Beaucoup arrivent avec de quoi se faire excuser. On prétend être enceinte, on prétend avoir un cancer du sein. Mais non, rien, apte. On fait passer un pseudo-examen médical, mais toutes les femmes sont aptes. On entre, on doit abandonner beaucoup de ses bagages, beaucoup de ses objets, les objets coupants ou autres. Et on vous donne une sorte de sac de toile avec de la paille à remplir. Eh bien, vous voilà. Les toilettes ont été bouchées parce qu'il y avait des fenêtres par lesquelles on pouvait s'échapper. Il n'en reste que deux pour 5000 femmes, vous pouvez imaginer.
Elles dorment où ? Elles se lavent comment, ces femmes qui arrivent au vélodrome d'hiver ?
Par terre. Elles dorment par terre sur les sacs de paille. D'ailleurs, il y a des scènes assez drôles. C'est que certaines ne remplissent pas assez et s'écroulent. La paille sort. D'autres le remplissent trop et elles se mettent à rouler et à dévaler la piste cyclable qui a donc est penchée. Oui. Et elles roulent complètement sur la piste cyclable avec leur paille. Elles mangent ce qu'on leur donne, c'est-à-dire du pâté de foie et un morceau de pain matin et soir.
Et pour se doucher, ça, c'est un moment particulièrement compliqué. Il y a très peu de douches aussi. Et en plus, ça se fait sous le regard des hommes.
On a installé quelques petites douches qui ressemblent, s'amusent mes deux héroïnes, qui sont inventées, bien sûr, puisqu'on est dans un roman, mais qui sont vraies, dont les personnages et les situations sont tirés de documents et de témoignages que j'ai pu retrouver qui sont réels. Y a des petites cabines, comme les cabines pour se changer sur la plage à l'époque, en 1940. Donc, au toit pointu, elles s'amusent, mes deux héroïnes essaient de s'amuser et de voir toujours un peu un côté positif et fantasque, on va dire. Elles s'imaginent être justement en villégiature sur le bord de mer pour se doucher, mais il y a à peine quelques gouttes d'eau qui coulent. Il faut être les premières servies, sinon de toute façon on ne se douchera pas. Et la plupart d'entre elles n'ont même pas le courage.
Et puis c'est des femmes coupées du temps parce qu'elles ne savent pas combien de temps elles vont rester dans ce vélodrome.
Alors ce qui est incroyable au vélodrome, c'est qu'en effet, pas de courrier, pas de journaux, pas de communication. Rien ne filtre. Et donc, elle voit jour et nuit se succéder sous la verrière du vélodrome, les bombardiers passer au-dessus, des déflagrations. Elles ne savent pas. Peut-être Paris est détruit. Qu'est-ce qu'on va faire d'elles ? Est-ce qu'on veut les envoyer dans la bouche de l'ogre, en Pologne ? Est-ce qu'on veut les envoyer en Allemagne ? Qu'est-ce qu'on va faire d'elles ? Que se passe-t-il ? Et puis, d'un coup, évidemment, on imagine... En tout cas, je l'ai imaginé comme tel, et dans les témoignages, on le voit, un peu comme dans la série, pour ceux qui aiment les séries américaines, Orange is the New Black, toutes ces femmes enfermées entre elles, certaines sont véritablement nazies, d'autres, la plupart sont juives, d'autres sont des militantes communistes, des militantes anti-nazies, et ce monde clos, isolé, sans la présence d'aucun homme, à part les gardes, plonge ces femmes dans une tension de jalousie, de violence et de détresse. Certaines deviennent folles, d'autres se suicident en voulant sauter des balcons des premiers étages, des estrades.
C'est la première étape de l'histoire de ces femmes, de ces indésirables. La deuxième étape les emmène dans les Pyrénées-Atlantiques, dans le camp de Gurs. Près de 10 000 femmes y seront regroupées. Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Et sur RTL, on vous raconte l'histoire de ces milliers de femmes arrêtées par la police de la République française en mai 1940 parce qu'elles étaient allemandes et donc considérées comme ennemies. Parmi elles, des réfugiés politiques qui avaient fui le nazisme, des juives, de futures résistantes et très peu d'espionnes au service du Troisième Reich. C'est la philosophe et femme de lettres, écrivain Diane Ducret qui nous raconte cette histoire. Et parmi ces indésirables, Diane Ducret, il y a la philosophe, une philosophe majeure du XXe siècle, c'est Hannah Arendt. Vous nous rappelez qui elle est ?
Eh bien, Hannah Arendt, comme toutes ces femmes, bon, elle est juive, elle s'est exilée, évidemment, elle est arrivée à Paris, qui est la terre des droits de l'homme et des Lumières, finalement, comme toutes ces femmes. Et donc, quel choc pour Hannah Arendt, qui avait été maîtresse de Martin Heidegger, qui ne l'est plus au moment où elle vient de se fiancer, mais elle n'a pas d'enfant encore. Et donc, elle est une indésirable parce que, évidemment, elle n'a pas porté les fruits qui lui permettraient de ne pas être une indésirable. C'est une grande philosophe qui va penser la violence, le totalitarisme, et la dictature notamment, et dans toute une pensée de l'homme moderne, elle n'a pas encore construit sa pensée, mais on peut imaginer et on sait que ses premières réflexions sur le suicide notamment lui ont été inspirées par son séjour au Vélodrome d'hiver puis au camp de Gurs.
Et d'ailleurs, vous citez régulièrement dans votre livre Les Indésirables, publié chez Flammarion, des textes d'Anna Arendt, des poèmes qui viennent ponctuer certains des chapitres. Parmi ces milliers de femmes, il y a aussi une autre célébrité, une comédienne qui s'appelle Dita Parlow.
La grande illusion avec Jean Gabin. Dita Parlow.
Le café est prêt.
Dita Parlow dans le rôle d'Elsa dans le film de Jean Renoir, La Grande Illusion. C'est une star à l'époque, Diane Ducret.
C'est une star déjà en Allemagne, considérable. En France, évidemment, elle a joué, c'est quand même très ironique, elle a joué cette femme qui recueille les soldats français. Et elle se retrouve dans cette situation-là. Du café, elle ne va pas en voir beaucoup au Vélodrome d'hiver, ni au camp de Gurs.
C'est une pro ou une anti-nazie ?
C'est toute la question, mais en effet, on va voir dans le roman et dans la réalité, suivant les témoignages de femmes qui l'ont côtoyée, qu'en effet, elle est plutôt partisane d'Hitler et plutôt partisane du retour en Allemagne, et que lorsque les forces allemandes, la commission Kundt viendra sélectionner celles qui vont retourner en Allemagne, elle les accueillera d'un Heil Hitler. Donc cette grande figure qui devait, à l'époque où elle est internée, tourner le prochain film d'Orson Welles. Eh bien, non, la célébrité n'empêche pas d'être une indésirable. Et c'est terrible pour cette femme qui incarne la beauté à la Marlène Dietrich et la séduction d'être une indésirable, et ça la touche très profondément. De la même manière que pour Anna Arendt, qui philosophe énormément sur le désir, qui a fait sa thèse sur le désir et l'amour chez Saint-Augustin, qui parle énormément du désir, dont les lettres et les poèmes que je retrace sont, à Heidegger sont tous empreints d'amour et de désir, et de poèmes pour Dita Parlow. Toutes ces femmes qui sont dans la fleur de l'âge, eh bien, sont indésirables alors qu'elles ne font qu'incarner le désir dans leur vie. C'est quand même très ironique, terrible.
Et elles sont donc près de 10 000. Alors, il y a celles qui étaient au Veldiv et puis d'autres femmes dans la même situation qui ont été raflées dans d'autres régions de France. Et elles se retrouvent toutes dans ce camp des Pyrénées-Atlantiques, le camp de Gurs. Elles y arrivent à la fin du mois de mai 1940. Il n'est pas vide, ce camp. Qui l'occupe déjà ?
Eh bien, 20 000 Espagnols environ. Et ça, c'est pas rien.
Des hommes ou des femmes ?
Des hommes. C'est un camp d'hommes. C'est un camp d'hommes, pourquoi ? Parce qu'on a choisi Gurs, donc dans les Pyrénées, on est à une centaine de kilomètres de la frontière espagnole, et donc évidemment ce sont des membres du Bando Republicano, des républicains espagnols, qui ont été mis là, emprisonnés là, ayant fui la guerre d'Espagne, qu'on ne veut pas tolérer sur notre sol, mais enfin qu'est-ce qu'on peut en faire d'autre ? Donc on les a forcés à construire ce camp qui est terrible. Il y a des centaines de baraques à perte de vue, sur 1,5 km de long et plusieurs centaines de mètres de large, énormément de barbelés. C'est construit vraiment avec des planches de bois, des toiles au-dessus qui sont censées abriter de la pluie, alors qu'on est entouré par les montagnes. Des Pyrénées, qui donc les crêtes sont blanches, il y fait froid.
Il fait froid, il fait humide.
Il fait humide.
Il y a de la gadoue.
Ah ben, le Pays Basque, on sait pourquoi c'est vert. Hein, et en effet, la zone est très verte. Et alors là, c'est une plaine qui est uniquement une terre d'argile et de boue. C'est pour ça qu'on l'a choisi pour ce camp, parce qu'en fait, rien n'y pousse, à part visiblement la misère. Et si l'on a le malheur de sortir la nuit pour aller chercher les latrines, certains ou certaines sont retrouvées mortes le lendemain, comme des statues d'argile, parce qu'elles se sont étaient prisonnières jusqu'aux genoux dans cette boue, elles sont mortes étouffées.
Et on leur donne des sabots, c'est ça, à ces femmes quand elles arrivent, sauf qu'il y a une seule taille.
Oui, il y a des sabots de bois qu'on leur donne. Évidemment, on en perd un, à peine a-t-on fait un pas dans dans la boue. Et ces 20 000 Espagnols, on imagine de voir arriver ces 5 000 femmes de l'Est ou du Nord.
Blonde, souvent.
Oui, évidemment. Ça ne se passe pas de tout repos. C'est ce qui en fait un lieu paradoxal, c'est que, évidemment, c'est un lieu terrible, un vrai camp d'internement, et côté allemand, on appelle ça un camp de concentration. En France, au beau milieu des Pyrénées, dans un paysage sublime, avec 20 000 Espagnols qui n'ont pas vu de femmes depuis très longtemps.
C'est un camp où tout est permis ?
C'est un camp où tout n'est pas permis, mais où on va tout se permettre. À la fois, tout est permis dans le drame. Hein. À l'hiver 40, il y meurt plus de gens qu'à Buchenwald, qui est déjà ouvert. Donc, On a cette image, cette habitude en France de se dire que bon, nous n'avons pas participé trop à cette époque-là. Là, quand même, la réalité est différente. Mais d'un autre côté, eh bien, les Espagnols creusent des tunnels assez vite, vous imaginez bien. Et finalement, certains témoignages que j'ai pu retrouver, donc, que je relate et qui a donné le ton du roman, racontent que c'était quand même un camp de l'amour, des enfants naissent, des couples se créent. Et on échange des petits billets doux. D'ailleurs, il y a un événement.
On va raconter ça.
Ah ouais.
Faut pas aller trop vite. On va raconter ça. Dans votre livre publié chez Flammarion, vous avez reconstitué en quelque sorte, à partir de témoignages réels, deux personnages de femmes, Lise et Eva. Vous avez rencontré des femmes. Il reste des survivantes de ce camp de Gurs.
Il reste assez peu de survivants, plutôt d'enfants. Il reste des enfants nés dedans. Eva et Lise sont deux femmes, évidemment. Il y en a beaucoup dans ce camp qui devraient être ennemies, que tout oppose. L'une est juive, plutôt discrète et effacée. L'autre, Eva, est allemande, arienne, elle est pianiste. Elle a fui l'Allemagne parce que son art était un art dégénéré. Elle aime le jazz, évidemment. Et ces deux femmes que tout oppose vont devenir finalement les meilleures amies et devenir celles pour qui l'autre continue d'exister et tient encore.
Alors comment ces deux femmes, Lise et Eva, et toutes ces autres femmes vont tenir dans ce camp terrible de Gurs? C'est ce que l'on va vous raconter dans un instant sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
L'antisémitisme du régime de Vichy s'y déchaîne.
Les mentis.
La France qui a été battue, ce n'est pas le peuple français, c'est la bande de salons, de juifs et de capitalistes qui nous dirigeaient.
Le monde entier saura le pourquoi du mensonge.
La curiosité est un vilain défaut.
Les premières rafles ont lieu de mai à décembre 41. Puis les nazis et le gouvernement de Pétain décident les déportations massives.
Nos pleurs et notre peine.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Les rafles du Veldiv de juillet 42 sous le régime de Vichy, on les connaît, on en parle régulièrement, on en a encore parlé dans cette campagne électorale qui s'achève. Mais ce soir sur RTL, c'est une autre rafle du Veldiv qui date de mai 1940. À l'époque, c'était encore la Troisième République dont on va vous parler, dont on vous parle depuis quelques minutes. Une rafle à l'origine d'une histoire extraordinaire que nous raconte notre invitée, la philosophe et écrivain Diane Ducret. Les indésirables, l'histoire de ces milliers de femmes allemandes qui ont été raflées, c'est le terme qu'il faut employer, par la police française en mai 40. Alors, on est à l'étape suivante quand elles sont dans ce camp de Gurs dans les Pyrénées-Atlantiques. Elles sont arrivées fin mai 40. Il y avait déjà 20 000 Espagnols qui avaient fui le régime de Franco. Et donc, il y a une cohabitation qui a commencé à s'installer. Avant de raconter les histoires d'amour qui se sont nouées, il y en a eu, il y a même eu des naissances, vous nous le disiez tout à l'heure. Il faut parler du territoire, parce qu'il y a une question de territoire de ce camp. Chaque femme essaye d'avoir son espace, même s'il est minuscule, c'est ça ?
Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas que des Allemandes. Il y a des Françaises qui avaient épousé un officier allemand durant la Première Guerre mondiale, des Françaises nées en Alsace-Lorraine, il y a des Belges, des Polonaises, des Autrichiennes, des Allemandes. Il y a les Juives, il y a les Ariennes qui, même si elles ont fui, sont parfois pas promptes à se faire amies avec des Juives parce qu'elles pensent que cela, on les observe, ça pourrait leur nuire. Il y a les communistes, il y a toutes ces femmes qui finalement, c'est pas facile de s'entendre, surtout qu'il y a des conditions très particulières. La nourriture, tout d'abord, il y en a très peu. On est obligé de suspendre son bout de pain, le seul bout de pain qu'on a pour la journée. On est obligé de le suspendre à une ficelle qu'on suspend aux poutres de la baraque dans laquelle on est surchargé. On est 60 avec un espace de 50 cm contre le mur, uniquement pour son lit et ses affaires. Et on suspend son bout de pain au toit pour ne pas que les rats trompettes puissent le manger parce qu'ils sont là en quantité.
Alors, on le suspend, mais comment on sait qu'on va le retrouver, ce bout de pain ? Est-ce qu'il y a des vols ?
Il y a énormément de vols au départ et puis finalement les femmes vont faire quelque chose d'assez beau et qui est un peu le moteur de ce roman. C'est une solidarité féminine qui va se mettre en œuvre et en place. Et puis c'est un peu Hannah Arendt qui va créer cette bouscule-là. Tout simplement parce qu'au départ, ces femmes-là deviennent folles pour certaines, écrivent dans le vide. Parce qu'évidemment, il faut tenir, c'est penser à quelqu'un, s'accrocher à la pensée de quelqu'un qui nous aime ou qu'on va retrouver. Mais où sont les hommes ? Est-ce qu'ils ont été conduits dans des camps eux aussi ? Est-ce qu'il ne m'a pas remplacé ? Est-ce qu'il a été tué ? on ne sait pas ce qui se passe. Et donc, très vite, on ne peut plus compter sur les hommes ou sur ceux qui sont à l'extérieur du camp. On ne peut compter que sur l'ami, que sur celle qu'on tient. Et Hannah Arendt va, la première, voir un jour tout ce tas de femmes. Ce tas de femmes qui se laissent à l'abandon et au désespoir dans cette baraque surchauffée, vraiment où elles sont trop nombreuses. Et elle va dire, mais... réagissez, réveillez-vous. Si vous vous laissez aller à la laideur et vous vous laisserez contaminer par la laideur de ce qui vous entoure, alors vous êtes perdus et nous sommes perdus.
Mmh. Hannah Arendt, la philosophe, je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent, et donc il va y avoir un salon de coiffure qui va se créer, c'est ça?
Alors c'est vrai que c'est un roman, donc je raconte, je tourne ça, mais en effet, ça va réellement exister. Il va y avoir tout d'un coup une sorte de mise en abîme du désir dans ce lieu pour indésirable. L'une est coiffeuse, l'autre est maquilleuse, une autre est couturière. Et bien qu'à cela ne tienne, on va ramasser les bouts de tissu que l'on a, on va se coiffer, se maquiller, se faire les ongles et parader devant quoi ? Et bien devant le grillage aux Espagnols pour essayer de les séduire et pour quelque part sentir qu'on est encore une femme dans leur regard et qu'on existe encore.
Quel est le rapport, Diane Ducret, de ces prisonnières avec les soldats qui les gardent ?
Alors les soldats français... Il y en a de plusieurs sortes. Et c'est ça qui est terrible. C'est qu'évidemment, certains sont plutôt sympathiques. Certains autorisent à ce qu'on leur fasse passer un peu de nourriture côté espagnol. Néanmoins, voyant le matin, puisqu'il y a un seul baquet par îlot où on vient se doucher ou se laver ses affaires et boire entre 6h du matin et 9h du matin, après c'est terminé, il n'y a plus d'eau pour toute la journée. Évidemment, comme par hasard, les gardes viennent patrouiller quand les dames sont à la toilette, et donc c'est terrible cette humiliation d'être à la fois indésirable et de devoir se laver sous l'œil de celui qui n'est même pas un occupant ni un ennemi, qui est tout simplement celui chez lequel on est venu trouver refuge. Et il y a à la fois un commandant qui est une figure très positive, qui a vraiment existé, que j'ai voulu garder dans le roman, mais il y a un autre commandant qui lui est quelqu'un de terrible et qui a réellement existé aussi. Le premier, c'est le commandant d'Avergne. C'est celui grâce auquel ces femmes vont survivre, qui va être très dur avec les Espagnols, mais qui ne supporte plus de voir ces femmes mourir de dysenterie, de famine sous ses ordres, et qui va faire en sorte, je pense qu'on va le révéler après, qui va leur donner l'objet qui va faire en sorte que soudain, cette histoire et ce camp et ce roman vont complètement changer de ton.
Un piano.
On en parlera tout à l'heure.
Ouais.
Un piano. Et c'est, il va le donner à Eva, justement. Et mais il y a l'affreux commandant que j'ai appelé Grumel, pour évidemment. Lui, j'ai changé son nom pour ne pas. Pour des raisons évidentes, qui chaque soir, lorsqu'il a bu, vient avec un fouet à chien. Et. Passe comme ça dans la baraque, fait défiler les femmes dans un triste et sombre défilé et choisit sa victime pour la nuit quand il ne trouve pas des prostituées pour se sacrifier pour les autres. Et il promet, il arrive, ça c'est un événement réel que j'ai retranscrit, il vient souvent avec un bout de viande dans sa main et à celle qui se donnera à lui, il jette le bout de viande pour se nourrir. Ça c'est terrible.
Ouais. Alors à côté de ça, il y a eu aussi de belles histoires d'amour. On va en raconter une histoire que vous avez imaginée pour votre roman, qui est encore une fois, il faut le dire, basée sur des témoignages réels. Les Indésirables, c'est publié chez Flammarion, récit fascinant que l'on continue de partager avec vous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Les Indésirables, c'est le surnom donné aux milliers de femmes allemandes arrêtées en mai 1940 par la police française. Soupçonnées d'intelligence avec l'ennemi, elles étaient, dans leur immense majorité, réfugiées politiques, souvent d'origine juive, et pourtant, on les a internées dans le camp de Gurs, c'était dans les Pyrénées-Atlantiques, et c'est Diane Ducret, l'écrivain, qui nous raconte cette histoire dans un très beau roman publié chez Flammarion, Les Indésirables. Gurs, un camp qui a véritablement existé, un camp de souffrance, mais aussi un camp d'amour, où des contacts étaient possibles. Est-ce que certains prisonniers pouvaient passer côté femme ?
Oui, et c'est justement un peu ce qui m'a donné envie d'écrire ce roman, c'est que lorsque j'ai découvert d'abord cette histoire des Indésirables, de cette rafle de femmes en plein Paris, en mai 40, qui est tabou, dont personne ne parle, qu'on ne connaît pas, puis ce camp près de chez moi, au Pays Basque, ce camp de Gurs, je me suis dit, bon, ça m'intéresse, mais je ne vais pas écrire un roman là-dessus, on a déjà vu des choses. Et puis, en découvrant des témoignages, j'ai vu que ce qui restait finalement, c'était pour certaines l'impression de vivre dans une bulle, hors de la guerre, où justement, juives et allemandes, au lieu d'être ennemies, pouvaient devenir amies, et avec ces hommes espagnols, qui n'étaient plus... des maris idéaux qui n'étaient ni juifs ni allemands, mais d'un coup il pouvait y avoir de l'amour libre et de l'amour courtois. Alors évidemment, il y a beaucoup de rencontres, des enfants naissent, Il y a même une femme sur laquelle je construis un des personnages qui s'appelle Suzanne, qui est une béarnaise, qui voit un jour un des Espagnols passer dans le camion qui va se faire interner, qui croise son regard, en tombe tellement amoureuse qu'elle va se faire, elle se présente le lendemain au camp, elle trouve un moyen de se faire interner. Je ne vais pas raconter là lequel, il faut lire le livre, mais elle trouve un moyen de se faire interner. Et il y a notamment une très belle histoire d'amour avec un Espagnol qui s'appelle Ernesto et qui est l'homme, je pense, dont on rêve toutes. Mais en effet, ça commence, et ça, c'est un petit bout réel et qui m'avait fait penser lorsque j'ai découvert ce témoignage à La vie est belle de Roberto Benigni. Et c'est là-dessus que j'ai eu envie d'écrire tout ce livre. L'une des femmes raconte, lorsqu'elle arrive la première nuit au camp, c'est terrible, elle se sent perdue et elle découvre dans sa paillasse un truc dur. Elle l'ouvre, elle déchire, elle trouve un petit mot avec écrit « Je m'appelle Ernesto, j'ai construit ce camp pour toi et cette paillasse, je l'ai remplie pour toi. J'espère, femme, que tu y seras bien. Je t'aime. »
Ça veut dire que les Espagnols, les hommes savaient.
Ils ont dû préparer le camp pour les femmes.
Et ils ont donné une partie de leur paille pour elles, c'est ça ?
Ils donnent leur paille, ils donnent une partie de leur nourriture parce que pour eux, quelque part, tant qu'ils se font en sorte que ces femmes-là ont de quoi manger, même un tout petit peu, eh bien, ils sont encore dignes, ils sont encore des hommes. Il y a cette fierté masculine très ibérique. Et ce tout petit mot m'a donné vraiment l'envie d'écrire le livre et m'a fait penser à La vie est belle de Benigni et d'écrire une autre histoire où, au lieu d'écrire une histoire de mort et de souffrance, on pouvait écrire une histoire d'amitié, d'amour, de résilience, et au contraire où l'amour sauve tout.
Diane Ducré, on parlait tout à l'heure de la philosophe Hannah Arendt qui a été internée dans ce camp de Gurs. Est-ce qu'elle était vraiment l'une des meneuses ?
Alors, Hannah Arendt, elle part très tôt. Elle part avant le début du cabaret, grâce justement au commandant d'Avergne, qui va organiser, alors je ne peux pas révéler, il faut lire le livre, je ne peux pas révéler comment, mais qui, avant que les Allemands prennent possession du camp, va faire en sorte de libérer des milliers de femmes par quelque chose d'incroyable, de fantastique, d'inimaginable pour un commandant de l'armée française. Il va, après cela, il aurait pu être condamné à mort par ce qu'il va faire. C'est véritablement injuste. Donc Hannah Arendt part très rapidement. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est autre chose. Finalement, la meneuse, le meneur, c'est plutôt ce cabaret qu'elles vont monter pour survivre.
Mais c'est incroyable. Un cabaret dans un camp de concentration, il ressemble à quoi ? Qu'est-ce qu'on y joue ? Qu'est-ce qu'on y voit ?
Alors, on n'en sait pas grand-chose parce qu'il n'y a plus énormément d'archives. Mais on sait qu'on y joue Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Alors, il est fait de briquet de broc dans une baraque, évidemment. Néanmoins, il y a quoi ? Il y a un piano. Et en effet, le commandant d'Avergne, avant de libérer ses femmes, il va faire quelque chose d'incroyable à Eva, qui est la pianiste, suite au viol, aux maltraitances qu'elles subissent, va demander un piano. Elle va le gifler, lui dire « Donnez-nous au moins un piano, que l'art puisse nous sauver. » Et il va le faire. Et ça s'est vraiment passé. Elles vont trouver, au milieu de la boue, 3 jours plus tard, un piano magnifique. Et donc, ce cabaret, où elles vont chanter en yiddish, en français, en allemand, elles vont jouer Shakespeare, jouer tous les plus grands artistes du jazz notamment. Et pour quoi ? Pour se rebeller contre ce qu'elles entendent à la radio parfois, c'est sur les ondes de Radio Paris, le cabaret antisémite. Et c'est ça qu'on entend sur les ondes. Eh bien, elles vont jouer ce cabaret-là. Et chaque soir, celles qu'on dit les indésirables, eh bien, vont jouer, chanter, danser, être totalement désirables et même faire payer tous les paysans de la région et même les gardes français qui vont payer. Et grâce à ça, elles vont pouvoir acheter de la nourriture en contrebande.
Qui vont venir à l'intérieur du camp de Gurs assister
à
ces spectacles.
Oui, le commandant va ouvrir et donc, en effet, ils vont arriver. Donc, c'est assez improbable parce qu'on imagine donc, les petits bourgeois locaux, le pharmacien, le notaire, les notables locaux assis à côté des membres du Bando Republicano qui sont en haillons, qui sont hyper violents, qui n'ont qu'une envie, c'est de faire les poches ou pire aux dames qui sont là. Et du coup, tout ce petit monde est là, en effet, pour écouter cet art qui va les sauver. Ouais.
On va, évidemment, il faut lire ce livre, Les Indésirables, publié chez Flammarion pour avoir tous les détails et tout le sel de ce roman, mais il y a quand même la fin de l'histoire de ce camp de Gurs à raconter, parce que les Allemands vont évidemment finir par prendre possession d'une partie de la France. On est au mois de juin 40. C'est quoi la consigne à ce moment-là donnée par le commandement allemand au commandant d'Avergne qui commande le camp de Gurs ?
Le commandant d'Avergne refuse d'assister à ça. Donc il va prendre le maquis. Après cet événement incroyable que je ne peux pas révéler, sinon je raconte la fin de mon livre.
La consigne, rapidement, c'est quoi ? C'est de livrer, de livrer les juifs, c'est de livrer les opposantes et de faire le tri entre les ariennes, les bons ariens, entre guillemets,
sûr,
et les
l'armistice
autres.
L'armistice l'oblige.
Oui.
Une des clauses de l'armistice, je crois que c'est l'article 19, si je ne me trompe pas, indique qu'en effet, les sujets juifs ou les sujets contraires au Reich devront être livrés. Et donc, en effet, il y a une commission, la commission Kunt, qui passe dans les camps et qui va déterminer quelles sont les bonnes Aryennes, les Aryennes qui sont susceptibles du rapatriement et quelles sont les autres. Et en effet, alors que les Allemands prennent possession du camp, certaines auront la vie sauve. Une de nos deux héroïnes aura la vie sauve grâce au commandant d'Averne. Une autre, malheureusement, sera comme toutes celles qui ont dû rester. Il y aura, depuis ce camp français, départ pour camp de la mort en Allemagne. Tout le monde n'aura pas la vie sauve, mais toutes auront réussi à trouver le bonheur dans ce camp malgré tout. C'est ça qui est assez terrible.
Merci beaucoup Diane Ducray. Les Indésirables, votre livre que l'on recommande aux auditeurs d'RTL, est publié chez Flammarion.
Vous écoutez RTL.